Jean-François Kahn est notre invité à présent. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Jean-François, vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « Ne parlez plus, ne m'appelez plus jamais gauche ».
Enfin, qui va paraître demain.
Qui part demain. Donc merci de réserver à Radio Shalom la primeur de vos réflexions. Et d'ailleurs, je vous invite à venir parler plus longuement de ce livre la semaine prochaine, mais je voudrais avoir votre avis sur ce qui est la question de notre forum des auditeurs dans quelques instants. On s'est posé la question, est-ce que Mélenchon, finalement, bien que faisant parler de lui tous les jours, n'est pas arrivé en fin de course? Est-ce que paradoxalement, quand on voit comment ça dégénère par exemple à Saint-Étienne, alors que le candidat socialiste, qui lui par contre est en bonne forme, vient manifester, ça se termine par « casse-toi, casse-toi ». Vous, avec toute cette expérience que vous portez en vous, vous voyez Mélenchon en fin de course?
De toute façon, il y a l'âge, c'est comme moi.
Ah, comme moi aussi alors.
Oui, à son âge, on est en fin de course, hein, moi aussi.
Non, mais est-ce que tout ce système-là, ça y est, ça finit un peu en eau de boudin, quoi?
Oui, oui, mais je vais vous dire, au fond, la question, c'est est-ce que tout cela ne va pas contribuer à son effondrement, hein? C'est plus complexe, parce que quel est le calcul de Mélenchon? C'est un calcul cynique. Que personnellement, je trouve insupportable. Mais son calcul, c'est regarder les sondages, 55% des ouvriers vont voter pour le Rassemblement National, les employés votent Rassemblement National, les chômeurs votent pour Rassemblement National, le peuple sur lequel reposait l'électorat de gauche, le peuple de gauche, comme on disait, vous vous souvenez de la formule, le peuple de gauche, c'est absurde de parler d'un peuple de gauche, entre parenthèses, que le peuple il est droite et de gauche, c'est toujours le peuple. Bon, enfin bref, mais le peuple de gauche, aujourd'hui, Mélenchon, il a basculé à droite. Il a basculé même à l'extrême droite, parce que je ne suis pas sûr que le même électorat populaire est prêt à voter à droite. Aussi bizarre que ça puisse vous sembler, le vote pour l'extrême droite reste pour un électorat de gauche un vote de classe.
Intéressant, parce ça. Mais c'est super intéressant, ça. Mais ça fait en même temps longtemps qu'il a été quitté, Mélenchon. Quoique,
c'était pas trop mal. En cause de l'ambiguïté du discours de Marine Le Pen. D'un côté, le discours de Marine Le Pen, il est à 60% d'extrême droite et à 40% gauche sociale, hein, presque socialiste. C'est ça aussi qui a permis de contribuer à mobiliser le peuple. Bon, il pense que c'est foutu. Alors, le peuple sur lequel repose la gauche est foutu. Donc, il faut le remplacer par un autre peuple. C'est ça, son analyse. Il faut changer de peuple. Alors, changer de peuple comment? D'abord, en favorisant l'émigration, le plus possible. Plus on se donne d'émigrer, plus on change le peuple. Mais l'autre, c'est de contribuer à ce que ce nouveau peuple, en revanche, vote massivement pour lui. Or, ce nouveau peuple, en majorité, est musulman. Et donc, aller toujours plus. Alors, au début, c'est essayer de le rafler sans perdre l'autre. Mais plus ça avance, plus il s'investit complètement dans cette idée. Il faut rafler l'électorat du peuple de banlieue. On dit peuple de banlieue, peuple des cités, peuple en vérité, ça veut dire le peuple d'origine musulmane. D'où le fait d'aller jusqu'à flatter des opinions islamistes. Donc la question c'est, est-ce que ça marche ou que ça ne marche pas? Et c'est là où je vous dis que c'est complexe. Parce que d'un côté, ça peut le faire s'effondrer, ça va le faire s'effondrer. N'oubliez pas qu'il a fait 22% aux élections présidentielles la fois dernière.
Maintenant, on parle de 8.
Hein?
Maintenant, on parle de 8. Là, pour les Européens, alors, c'est 8.
Bah oui, aux Européens, il fera 6, 7. Mais s'il se présentait à des présidentielles, à mon avis, à cause de ça, il ferait 12. C'est-à-dire, il s'effondrerait, il ne ferait plus 22, mais il ne ferait pas 6, il ferait 12. Or, lui, son obsession, au fond de lui-même, il sait très bien qu'il ne va pas être élu président de la République, que c'est fini, qu'il n'a aucune chance. Donc, au fond de lui-même, compte tenu que c'est son orgueil, son égocentrisme qui domine maintenant toute son action, au fond de lui-même, ce qu'il cherche, c'est un, être en tête de la gauche au premier tour et faire passer Marine Le Pen au second.
Ah ouais, c'est un titre, ça. Mélenchon
parce que si, parce
veut
que si,
pas
si,
être au deuxième tour et faire passer Marine Le Pen. C'est son vote révolutionnaire à lui, ça.
Parce que, ben bien sûr, parce que si Marine Le Pen est élue, et aujourd'hui elle le serait, hein, si on votait, mais pas forcément dans deux ans, ça lui permettra, pense-t-il, de remobiliser la base sociale de la gauche sur le thème « le fasciste ne passera pas » et vous aurez des manifs toutes les semaines.
Ah ben, mais ça, vous avez oublié qu'il y a la Palestine entre-temps, donc je sais pas, il y a quand même beaucoup de monde ailleurs. Et d'ailleurs, sur cette espèce de mauvais, ce mauvais mot d'esprit, je partageais avec vous une expérience, Jean-François Kahn, et qui illustre peut-être le caractère très complexe, vous disiez, de l'initiative, ou en tout cas du plan auquel s'est attaché Mélenchon. Vendredi après-midi, je suis allé devant Sciences Po, en tant que journaliste. Je suis allé voir. Il y a 4h, à 16h, il y avait d'ailleurs un groupe de jeunes juifs qui manifestaient contre les militants pro-palestiniens. Je vais vous dire quelque chose, Jean-François Kahn. Les jeunes qui occupaient Sciences Po, ils ont quelque chose de désespérant dans le sens où d'abord déjà, bon, mais vous direz c'est la jeunesse, ça. Ils sont certains d'avoir tout l'avenir devant eux alors que normalement, on se dit qu'ils représentent quand même une infime minorité, mais surtout, ce qui est très frappant quand on le voit, c'est le caractère souriant et vraiment totalement, pour eux, totalement normal de cette alliance entre les militants MPA, révolution permanente, faut imaginer, révolution permanente et islamistes. Et c'est fait, c'est très surprenant à voir. Il n'y a pas de, on voit pas, par exemple, vous savez, dans certaines manifs, il y a deux groupes où on sent bien que pas du tout. Il y a un seul groupe, c'est les islamistes avec les foulards pour les filles, etc., et les gars du NPA.
Et oui, mais alors une remarque, une observation très juste. Enfin, en plus, d'autant plus juste que vous y étiez, que
j'y
vous
étais, ouais.
Le voyez. Et moi, je le ressens comme ça. En effet, je pense qu'aujourd'hui. C'est quand même des minorités, mais c'est ce militantisme, cette base militante insoumise d'extrême-gauche a complètement intégré le fait que l'islamisme était une façon d'exprimer son oppression, de protéger contre l'oppression, de condamner le système capitaliste, etc. Ça, et donc, hier, il y aurait eu deux groupes, comme vous le dites, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a fusion. Hein, c'est ce que vous dites.
Oui, oui, ils sont totalement ensemble. Mais, et pas seulement parce qu'ils étudient dans les mêmes amphis, c'est parce que c'est la même chose. Ils sont,
ouais, alors,
pour eux, ils sont coude à coude.
En revanche, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, par là, comme j'habite Place de la République, j'ai assisté à deux grandes manifestations, enfin deux grandes. Il n'y en a pas eu de grandes, justement, c'est ça qui est intéressant aussi. La France est un des rares pays du monde où il n'y a pas eu de grande manifestation pro-palestinienne. Ça aussi, on devrait y réfléchir, alors que partout ailleurs, c'est énorme. Eh bien, j'ai assisté à deux manifestations, les deux plus importantes pro-palestiniennes. Eh bien là, il y avait une scission. C'est-à-dire, il y avait toute l'extrême-gauche devant, toutes les formes d'extrême-gauche, et vous aviez des jeunes de banlieue, et surtout les filles, hein, et les femmes de banlieue, qui manifestaient en faveur de la Palestine, solidarité avec la Palestine, mais qui, de toute évidence, ne voulaient pas se mélanger à l'extrême-gauche.
Ou avec les hommes.
Oh non,
parce que c'est des gens religieux.
Parce qu'il y avait des hommes aussi, il y avait pas mieux. Ouais. Non, c'était des jeunes filles.
Mais ça, c'est un peu la suite de ma question. Comment est-ce que des gens qui... Quoi qu'on pense de leur d'eux, ont une expérience politique énorme. Tous ces mouvements d'extrême gauche ont une expertise. Ils savent fabriquer
jeunes,
une salle.
Les jeunes, ne dites pas ça. Vous avez des responsables, oui. Y compris ceux qui en privé vous disent l'inverse de ce qu'ils disent en public. Vous disent il faut dire c'est pour des raisons électorales. Puis voilà, mais en fait, bon, voilà. Mais les jeunes militants. Les jeunes mobilisés, discuter avec eux, ils sont cons comme des balayettes.
Mais justement, Jean-François Kahn, comment est-ce qu'un militant trotskiste peut croire que quelqu'un qui est profondément religieux, qui vient d'Afrique du Nord, quel que soit son âge d'ailleurs, peut faire peut traverser ce pont-là qui l'amènerait au trotskisme. Mais comment on peut croire une chose
pareille? Mais ils ne le croient pas. Ceux dans les insoumis qui sont trotskistes. Mais trotskistes, maintenant, c'est une petite, c'est un encadrement. Ils ont au moins, on peut penser ce qu'on veut du trotskisme. J'ai toujours été opposé, moi, vraiment opposé à ce qu'en présente le trotskisme, son dogmatisme, son sectarisme. Bon. Mais au moins, ils ont une culture. Ils ont une structure mentale. Ils ont, voilà. Et donc, ils ne croient pas tout ça. Ils ne diraient jamais tout ça. Ils sont devenus minoritaires. Par rapport à une base qui est plutôt gauchisto-liberté,
islamo-gauchisto-libertaire,
et d'autre part, ils ne croient pas ce qu'ils disent, mais ils pensent qu'électoralement, il est habile de le dire.
Une dernière question, Jean-François Kahn. Est-ce que l'opération Palestine, pour Mélenchon, ça a marché? Est-ce que cette idée... Voilà, on va, par exemple,
Hassan. Ah, mais je vous ai répondu, je vous signale.
Est-ce que ça...
Je vous ai répondu
vous
très clairement.
Vous avez dit non.
Non, je vous ai dit...
C'est complexe.
À cause de son engagement et des excès où il frise, et pas toujours frisé, des fois c'est pire, l'antisémitisme, la violence et tout ça, il ne fera pas 24, il est en voie d'effondrement, et il fera plutôt 12, mais... c'est grâce à ça qu'il fait 12 et qu'il fera au présidentiel 12 et pas 6. Ouais.
Très bien. Jean-François, j'espère que vous nous ferez l'amitié la semaine prochaine, une fois le livre sorti, de venir nous en parler sur Radio Shalom. Donc ce livre s'appelle « Ne m'appelez plus jamais gauche », paru aux éditions de l'Observatoire. Et en gros, ce que vous dites dans ce livre, c'est que jamais on avait eu, étant donné le repli sur soi, le manque de sécurité, le chômage, évidemment, les grands bouleversements que connaissent aujourd'hui nos sociétés, on n'aurait jamais eu autant besoin d'une gauche modérée comme celle qu'on a connue pendant des années, apportant des solutions, menant des combats d'ailleurs. Et on n'en a jamais eu aussi peu.
Donc, c'est-à-dire, on n'a jamais eu autant besoin, avec l'extrême droite qui va au pouvoir, enfin, de ce qui est joué, qui pendant deux siècles a joué le rôle que joue, de la gauche. Elle a aidé la gauche, l'idée des réformes, etc. On n'a jamais eu autant besoin. Mais outre qu'elle est aujourd'hui exsangue, mais aujourd'hui elle n'est plus possible, telle qu'elle est dans ses divisions, ses dérives, ses absurdités, ses paranoïas, c'est plus possible. Il faut la rien. Et ce n'est pas un problème de refaire la social-démocratie, ce n'est pas le problème de la dépoussiérer, de la moderniser. Ça s'est dépassé. Aujourd'hui, il faut réinventer complètement ce qui correspondrait à cette fonction. Remettre en cause son rapport aux mots, son rapport à la vérité, son rapport à la notion de peuple, son rapport à la notion de classe ou d'antagoniste principal, et son rapport à son histoire, qui est complètement mythifié. Voilà, c'est ça le thème du livre.
Magnifique. On vous attend, Jean-François Kahn, pour parler de cet ouvrage « Ne m'appelez plus jamais gauche » paru aux éditions...
Ça vous rappelle quoi, ce titre?
Ah ben, Sardou.
Voilà.
Ah ben, quand même. Nous disions, Jean-François, vous et moi, au début de notre entretien, qu'on n'était pas forcément les plus jeunes de ceux qui nous écoutent. Donc, si je me souviens pas... Sardou, d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous faire écouter. Sardou, il pense qu'on vit dans un monde... Il dit, mais c'est pas possible, quoi. Conduire trop vite, c'est trop vite. Fumer, c'est interdit. Quasiment faire l'amour, c'est devenu interdit. Il dit, non, mais attends, c'est...
Absolument.
Il n'y a pas tort. Hein. Allez, à très bientôt. À la semaine prochaine, Jean-François Kahn.
Merci.
Bonsoir à vous.